Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Josué au chapitre 4. Et curieusement, c'est une histoire de brèche, on ne s'est pas consulté. Alors, c'est le passage du peuple d'Israël quand il est devant le Jourdain et que Josué va conduire et que le Jourdain va s'ouvrir pour que le peuple puisse passer. Donc, dans Josué, chapitre 4, je ne vais pas lire tout le chapitre, j'en ai sélectionné la moitié, 14. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Et ils emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Plus loin, l'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portèrent l'arche de l'Alliance furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité donc de Jéricho, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ce texte qui est fort et qui marque véritablement ta main puissante et aussi ta main signifiante et symbolique, Seigneur, pour le destin du peuple d'Israël. Et nous voyons aussi combien cela est riche pour nous dans notre Église, dans notre actualité. Maintenant, Seigneur, tu veux ouvrir nos cœurs et notre intelligence pour que ces paroles qui ont été dites, Seigneur, fructifie et nous permettent de grandir afin de mieux te servir. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aurais pu lire tout l'ensemble du chapitre, mais ça faisait un peu long. J'ai chronométré, ça faisait 5 minutes, 3 secondes et 2 dixièmes. Donc, j'ai choisi d'être, voilà, d'en prendre la moitié. Alors, je remarque que sur les récits de l'Ancien Testament, souvent, le texte, quand on le lit, dit beaucoup plus de choses, si on le laisse comme ça à l'état brut, que les commentaires que l'on peut apporter. Mais bon, on est quand même obligé de le faire. Et souvent, le texte reste beaucoup plus incisif et percutant que ce que pourrait apporter une prédication ou un commentaire. Et ici, c'est un peu le cas, hein. Je veux dire, il faut dire qu'on est un petit peu surpris par toutes ces histoires de pierres. Il y en a qui sont dans le Jourdain, d'autres qui sont mis sur un autel à l'extérieur. Et quand vous écoutez ce récit ou que vous le lisez, vous vous dites, décidément, Dieu demande quand même des drôles de choses à son peuple. En effet, qu'est-ce que ça vient faire, toutes ces pierres, dans la traversée du Jourdain? Mais on va voir que ce que Dieu demande, c'est si Dieu demande ça, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Et c'est pas toujours évident. Pourquoi? Imaginez que Dieu, il est quand même en train de construire le peuple d'Israël. Alors c'est un peu comme un potier, si vous voulez, qui façonne un vase ou comme un architecte qui va dessiner une cathédrale, il va voir plein de détails. Et quand vous prenez le détail isolé, ben, ça vous parle pas. Mais une fois que toute la cathédrale est construite, eh ben, on comprend mieux le sens une fois qu'elle a été achevée. Et puis, depuis le temps qu'on parle souvent de l'Ancien Testament, on sait que dans le Deutéronome, dans le Lévitique, dans l'Exode, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais pourtant, on se dit que ces choses-là très précises, ces commandements précis, ben, ça a permis à Israël de se construire une identité. Et si elle n'avait pas fait ce qui lui était demandé, eh ben, cette civilisation, ce peuple, il aurait disparu de la terre. Hein. Effectivement, on peut se demander, par exemple, où sont passés les Éthiens, les Phéréziens, les Guirgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Toutes ces civilisations, elles ont totalement disparu. Alors maintenant, bon, ben, on est face à ces 12 pierres, d'un côté sur la berge et de l'autre dans l'eau. Et puis, il y a aussi ce Jourdain, ben, c'est difficile à comprendre. Mais je me dis, mettez-vous à la place, à ce moment-là, des personnes. Mettre 12 pierres au fond de l'eau et construire, comme Josué, un hôtel avec 12 pierres, ben, ça veut dire que c'était important. Pourquoi? Parce que Israël, pendant 40 ans, ils vont zoner, enfin, ils vont squatter, ils vont se balader à droite, à gauche, ils vont être en errance dans le désert. Et à aucun moment, je pense que pendant ces 40 ans, ou même avant, quand ils étaient en esclavage, Israël avait construit des monuments ou avait construit des hôtels ou quelque chose comme ça. La seule chose qui a été construite, c'était bah, l'arche et le tabernacle. Mais bon, c'était quelque chose de nomade. Alors là, par contre, c'est quelque chose qui va rester. Ces pierres-là ne bougeront pas. Hein, il nous l'est dit dans le texte, elles sont encore là à l'heure actuelle. Alors, ça veut dire aussi que Dieu a voulu marquer à ce moment où le peuple va traverser le Jourdain, il a voulu montrer quelque chose de précis, parce que cette génération-là n'avait pas connu la traversée de la mer Rouge. Donc Dieu était obligé de marquer les esprits de façon symbolique, de façon très forte. Et c'est ce qu'on va voir avec le Jourdain, avec ces 12 pierres dans l'eau et avec les 12 pierres qui vont être mises à Gilgal. Chaque chose a son importance, hein. Je peux pas toutes les énumérer, mais tous ces symboles, tout ce que Dieu demande, c'est là pour vraiment travailler la conscience collective et structurer aussi mentalement chaque croyant. Alors, c'est vrai qu'on est plongé, on va commencer par le Jourdain, qui a une symbolique très particulière. Vous vous dites donc on est plongé dans cette histoire et qu'on a ce peuple qui est arrivé après 40 ans dans le désert, et le fait de traverser le Jourdain, ce n'est pas simplement un passage à gué ou un peuple qui passe machinalement en suivant l'arche. On se dit, tiens, voilà un fleuve à traverser, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas évident, mais sans plus. Mais Dieu, à ce moment-là, il a quand même voulu marquer le coup. Parce que si vous comptez le nombre de fois où le mot Jourdain est cité dans la Bible, il est cité 200 fois. Donc, il a véritablement une valeur qui est symbolique, très forte. On le voit dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien. Une valeur géographique, c'est le fleuve principal d'Israël. Il a une signification spirituelle à travers le baptême et toutes ces choses-là. Et il a aussi une fonction stratégique, économique, agricole et militaire. Donc, vous voyez qu'il y a c'est quand même assez chargé au niveau du sens. Mais le Jourdain, c'est le fleuve donc le plus important de l'histoire et de la géographie d'Israël. Et au moment où le peuple va passer le Jourdain, ben, c'est un petit peu une redite de la traversée de la mer Rouge. Et donc, cette traversée-là du Jourdain va marquer à vie tout le peuple d'Israël. C'est le passage, si vous voulez, symboliquement, de la mort à la vie. Alors, c'est vrai qu'à cet instant, quand ils sont face au Jourdain, ça symbolise la mer, ça symbolise la mort, un peu comme quand les Israélites étaient devant la mer Rouge. Et c'est un obstacle pour eux, pour rentrer en terre promise. Il empêche le passage, hein, c'est pour ça que tout ce qui a été dit et partagé au sujet de la brèche, ça rentre bien en cohérence. Alors, c'est vrai que les circonstances sont un peu différentes. Ils n'ont pas les Égyptiens derrière eux qui veulent les exterminer. Mais Dieu quand même voulait marquer les esprits en disant, voilà, vous avez le Jourdain, vous allez, je veux vous dire des choses importantes. On pourrait penser que ce Jourdain-là, ce passage-là, est une forme de baptême. Alors, c'est un moment important où le peuple qui n'a pas connu le miracle de la mer Rouge doit se souvenir que la promesse du pays promis doit être célébrée. Ça doit être vraiment marqué. Et Dieu tient à montrer que le Jourdain représente la mort. Chaque chose a son importance. C'est-à-dire l'impossibilité pour Israël de franchir dans le pays où coule le lait et le miel. Et il fallait vraiment, si vous voulez, qu'à ce moment-là, dans la conscience du peuple, l'alliance qui avait été faite à Abraham et qui a été redite par Moïse soit marquée d'un signe qui soit très fort. Alors, c'est vrai que ce fleuve du Jourdain représente le passage de la vie à la mort, comme le baptême. Mais attention, quand on fait ce parallèle, il faut être précis. Parce que le texte nous dit que le peuple, quand il a traversé, il n'a pas été mouillé. Il a traversé à sec. Donc, il n'y a aucun contact. Le peuple n'est jamais en contact avec l'eau. Il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas de purification, comme aurait pu l'être. On se rappelle que avec Naaman, quand il s'est trempé dans le Jourdain, il a été purifié. Les seuls qui se sont trempés dans l'eau, ce sont les porteurs de l'arche, ce sont les sacrificateurs. Alors symboliquement, c'est fort parce que bon, dans Josué au chapitre un petit peu avant, il est dit quand les sacrificateurs qui portèrent l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Donc eux, ils n'ont pas vraiment traversé à sec. Alors pour le peuple, je dirais, il s'agit d'un passage spirituel de la mort à la vie obtenu, si vous voulez, par l'intermédiaire de l'arche et des sacrificateurs. C'était eux un peu les médiateurs de la promesse et de l'alliance. Et à ce moment-là, on peut faire un petit peu le rapprochement entre l'arche et les sacrificateurs et Jésus-Christ. Parce que l'arche atteste de la présence de Dieu dans le peuple, comme Christ qui est présent dans le peuple de Dieu. Là, on peut faire un parallèle. Hein. Jésus dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, pour nous chrétiens, c'est Jésus qui a été le premier baptisé par sa mort et qui ensuite nous a permis de passer de la mort à la vie. Vous voyez comme les symboles sont quand même, les parallèles sont quand même très précis. Et là, pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'est pareil. Le passage de la mort à la vie a été accompli par substitution par les sacrificateurs. Alors, comme Jésus s'est substitué en victime expiatoire pour nous permettre, si vous voulez, d'accéder à la vie. Alors, pourquoi tout ce cérémonial? Ben, tout simplement parce que Dieu veut donner un sens spirituel à ce passage. Et le texte tient à nous montrer que la traversée du Jourdain, ben, c'est pas simplement une formalité. Hein. Dieu tient à nous montrer l'importance. Alors, il voulait vraiment montrer à ce moment-là, pour vraiment construire son peuple, l'importance du culte, l'importance de la consécration, c'est vrai, des sacrificateurs, mais aussi du peuple. Et en même temps, Dieu nous demande dans nos vies de rendre un culte agréable, hein, comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, le Jourdain montre le passage de la mort à la vie et il récapitule un peu, et Jésus récapitule un peu tout cela en mourant et en ressuscitant. Alors, si j'essaie d'appliquer ça à ma vie, on peut dire que mon Jourdain, entre guillemets, mon Jourdain spirituel, à quoi je peux l'associer? Ben, je l'associerai à la conversion, à la nouvelle naissance, à la totale transformation de mon être. Et le Jourdain, c'est le rappel de notre ancienne condition de pécheur. Et le Jourdain à sec, je peux le voir aussi à un moment donné, c'est, imaginez-vous ces gens-là qui traversent et qui voient une grande muraille, un petit peu, une muraille d'eau, et qui peut être, qui peut être un peu considérée comme un jugement. Et de se dire, ben, Dieu me protège un petit peu de ce jugement, de toute cette masse d'eau qui pourrait m'engloutir, comme ça aurait été le cas pour la mer Rouge ou pour le Jourdain. Et il est dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors, qu'est-ce que le Jourdain peut me dire aujourd'hui? Alors moi, je me dis que combien de fois c'est une réflexion que je me suis posée. Est-ce qu'il vous arrive souvent de passer du temps, de savoir comment était votre vie passée avant d'être converti, de se dire, mais je suis sorti de quelque chose qui était quand même très… Je suis sorti d'une condition où j'étais sans espérance, j'étais errant, ça et là. Et c'est vrai que souvent dans nos milieux, on ne parle pas toujours un peu de ce regard ou de cette attention de notre vie passée, quoi. On passe un petit peu, je dirais, on passe un peu rapidement sur, entre guillemets, la face sombre de notre personnalité. Et voilà, quoi. Et en même temps, ce regard un petit peu sur notre vie passée, c'est la fonction, je dirais, essentielle de ces 12 pierres. Donc maintenant, je vais aborder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, ces 12 pierres au milieu du Jourdain. Alors, que fait Josué? Il choisit 12 pierres et il les monte comme un mémorial. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est un autel ou un simple monument? Le texte, alors, j'ai fait un rapprochement entre ces pierres qui sont montées et j'ai essayé de voir s'il y avait un parallèle dans l'Ancien Testament. Le seul que j'ai vraiment trouvé, enfin, c'est Jacob quand il est visité par Dieu à Bethel et il prend cette pierre et il en fait un monument, un mémorial. Voilà, cherchez le mot. Alors, la question, pourquoi mettre 12 pierres au milieu d'un fleuve en sachant que plus personne ne les verrait? Alors, Josué, il obéit à Dieu et en même temps, quand il obéit à Dieu, il marque son autorité devant le peuple. Parce que Josué devait conduire le peuple, mais il n'avait peut-être pas forcément le même charisme et la même puissance qu'un Moïse. Mais dans le texte, il nous est dit que Dieu l'a revêtu et que le peuple considérait Josué et qu'il le rendait grand aux yeux du peuple. Alors, c'est vrai que ces pierres, elles vont servir de mémorial. Même si on ne voit plus les pierres, pour les gens qui ont assisté à cela, ça va marquer leurs esprits et ils vont transmettre ça de génération en génération. Et c'est pour dire aussi que ces 12 pierres qui ont été mises au milieu du Jourdain et quand ils ont été engloutis, c'est se dire que plus jamais, si le peuple obéit, le peuple d'Israël ne reviendra esclave, sauf s'il désobéit. Alors, j'ai essayé de trouver un peu un équivalent. Je ne l'ai pas trouvé moi-même. J'ai regardé dans les commentaires de voir quelles correspondances on pourrait trouver. André Adoul dit « Les pierres au fond de l'eau représentent la croix de Jésus-Christ. Elles représentent aussi la mort à moi-même, la mort de Christ qui, lui, a été aussi enseveli. Les pierres ont été ensevelies par le Jourdain, mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, et c'est là où le sens du baptême du Jourdain revient, on a été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort, et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, on marche en nouveauté de vie. » Donc, en résumé, on doit intégrer que nous sommes morts au péché et que notre ancienne nature a été crucifiée. Dans Romains 6, au chapitre 6, verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne nous soyons plus esclaves du péché. » Je dirais que c'est la leçon essentielle que je tire, si vous voulez, de ces 12 pierres qui étaient un symbole de mort. Alors, c'est vrai que la présence de la mort vaincue reste un mystère. Qu'est-ce qu'on a comme mémorial? On a la Sainte Cène qui répond en partie, parce que quand même, on nous demande de pratiquer ce repas qui célèbre la mort, mais aussi la résurrection de Christ, et on doit pratiquer cela jusqu'au retour du Christ. Il y a une chose que je ne dois jamais oublier, c'est que l'ennemi, lui, continue son œuvre de mort en essayant de réactiver nos péchés et de travailler sur les tentations et la puissance de la chair. Alors, même si Dieu, lui, ne tient pas compte de cela pour notre salut, par contre, il nous demande d'être vigilants pour notre sanctification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura vers la fin des temps, dans une chronologie bien spécifique, le tribunal du Christ, où on aura à rendre compte de tous nos actes. Alors pour moi, ces 12 pierres qui sont englouties, ça m'aide, si vous voulez, d'avoir un regard lucide sur le fait que je suis quelqu'un de vulnérable. C'est aussi un exercice d'humilité, pas pour me lamenter ou tomber dans l'autodestruction, mais plutôt un encouragement à progresser. Alors voilà, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ces 12 pierres. C'est vrai que au départ, quand j'ai lu ça, j'aurais jamais fait le rapprochement avec le fait que ça doit me sensibiliser à progresser et à essayer d'être semblable au Christ. Alors plus courtement, le dernier symbole, ce sont les 12 pierres de Gilgal. Donc là, il y aurait une quantité de choses à faire et de choses aussi à dire. Ici, la démarche, elle est un petit peu différente, car ce n'est pas Josué qui porte les pierres. Quand il les met au milieu du Jourdain, quand il est à sec, je pense que c'est lui qui les met et qui construit lui-même le monument. Mais là, il demande à 12 personnes de le faire. Donc, si on voulait faire un rapprochement, il y a les 12 tribus et puis aussi les 12 apôtres. Mais ce qui est important, c'est que quand Josué construit à Gilgal ce mémorial, ça nous montre que Dieu a accompli sa promesse. Et ici, les pierres sont érigées par Josué pour en faire un mémorial, mais aussi un lieu saint, un lieu où on viendrait adorer Dieu. Alors, le site n'est pas anodin, hein. Gilgal, c'est quelque chose, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, qui revient très souvent. Il est cité parce que Samuel, le juge Samuel, y a séjourné longtemps. C'est aussi à ce moment-là où Samuel va confirmer la royauté de Saül. Et puis, on voit aussi qu'il y a des choses qui se passent sous Akab et que Élie et Élisée aussi ont fait des choses à Gilgal. Et Esdras et Néhémie disent qu'ils sont allés à Gilgal chercher les musiciens pour le culte, pour la reconstruction. Alors, je dirais que la fonction première de ces 12 pierres, c'est le rappel de la délivrance d'Israël. C'est ce qui est dit dans les derniers versets que je vous ai lus, dans Josué 4, verset 23 et au verset 24. Il est dit « afin que tous les peuples de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » En effet, encore là, il faut se dire qu'une fois en terre promise, il fallait bien un lieu qui soit sacré, un lieu qui marque pour la mémoire. Donc, on sait que après, dans l'histoire d'Israël, il y avait plusieurs hauts lieux qui ont été construits. Mais celui-là est vraiment quelque chose qui est fondateur. Alors, André Hadoul, dans son commentaire sur le livre de Josué, lui, il compare les 12 pierres de Gilgal au Saint-Esprit, parce qu'il dit elles sont destinées à être présentes en permanence pour le peuple. Et donc, ça rappelle aussi ce que Jésus disait en parlant du Saint-Esprit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur qui demeurera éternellement avec vous. » Alors, pour conclure, je dirais que ce texte de l'Ancien Testament nous montre que nous devons attacher plus de sérieux, je dirais plus d'attention aux actes de Dieu dans tous ces livres de l'Ancien Testament. Ils sont toujours le reflet de la vie future avec Jésus-Christ. Alors bon, je suis conscient qu'il y aurait d'autres choses à dire sur ce chapitre, mais je me suis limité à ces trois choses. Le Jourdain comme préfiguration du baptême, les pierres comme la croix de Jésus-Christ, et puis les 12 pierres de Gilgal comme le Saint-Esprit. Alors peut-être que c'est une façon de spiritualiser l'Ancien Testament, mais qui a quand même qu'il y a des fondements solides dans le Nouveau Testament. Alors là, ici, moi, je ne veux pas renier, si vous voulez, la portée de ces symboles, hein, simplement en disant elles sont là uniquement pour nous rappeler des choses. Je vous ai dit que ce n'était tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, ce n'était pas de l'histoire ancienne. Elles ont une richesse en elles-mêmes. Elles apportaient quelque chose, tous ces symboles, tout ce que Dieu demandait. Ils ont une valeur propre et qui a servi pour le peuple d'Israël. Donc, tout ce que raconte l'Ancien Testament, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Mais elle montre que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et par contre, s'il est aussi précis, il est aussi précis pour notre vie. Dieu est exigeant et précis dans ce qu'il nous demande. Et chaque chose que Dieu me révèle dans sa parole, que ça soit ici à l'Église ou dans votre culte personnel, doit être pris avec le plus grand sérieux. C'est pas uniquement des abstractions intellectuelles. Et c'est sa façon à lui, si vous voulez, de dresser ces 12 pierres pour nous rappeler un peu notre mission. Alors ce matin, que chacun de nous puisse, je dirais, travailler sa lecture de l'Ancien Testament en prenant soin d'approfondir le sens et d'être à l'écoute pour notre avancement personnel et celui de l'Église. Amen.